Parlons-nous.
D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Amis de 6h du matin, bonjour. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que nous avons une situation élevée, vous et nous, puisque nous sommes sur 1647 mètres grandes ondes et qu'Europe numéro 1, par la voix de Robert Villard, est heureux de vous souhaiter une bonne journée.
Par Salvadorissimo, le seul jus de fruits qui peut saouler les gosses.
Oui, car Salvadorissimo, madame, c'est la gnôle du petit.
Allez, encore 200 mètres et à la poste va être champion du monde. C'est fait, le drapeau à damier. Extraordinaire, nous n'avions jamais vu ça. Un pilote français, champion du monde de Formule 1.
Basket sur
un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons.
Franck, pour commencer la soirée, je te propose d'aller faire un tour dans une boîte où nous ne sommes jamais allés encore. Une boîte de New York, au Café Métropole.
Ah non, je ne connais pas le goût de la bière dans ce café.
Au soir du 17 juin, il y aura, selon toute vraisemblance, deux députés algériens. Alsaciens, pardon.
Marc Tronchot.
Salut à tous, merci de nous être fidèles, les enfants d'Europe 1, c'est vous, c'est nous, ceux qui sont passés, ceux qui sont restés, ceux qui sont associés, ceux qui ont travaillé pour cette station, avant d'aller faire carrière sous d'autres latitudes, dans d'autres salles de rédaction, il y en a même qui ont créé des journaux, et s'efforcent chaque jour de participer, comme le disait fort bien Diderot, à la lumière de leur siècle. Mon invité d'aujourd'hui fait partie de ces géo-trouve-tout de la pensée, il compte parmi les grands défenseurs de la liberté de la presse, et les grands utilisateurs de la liberté d'expression, il a présenté des journaux à Europe 1. Il en a créé quand il n'y était plus. Il a beaucoup éditorialisé sur cette antenne, mais il y a également joué les historiens et les musicologues. Bref, un formidable touche-à-tout. J'ai nommé monsieur Jean-François Kahn. Salut Jean-François.
Salut.
Quelque chose à ajouter pour votre défense?
Non, mais voilà, c'est bien résumé.
Enfant d'Europe 1, oui, on est d'accord là-dessus.
Ah oh, oui, on peut considérer ça, oui.
Ouais,
j'ai beaucoup appris à Europe 1 et oui, c'est.
Oui.
Absolument. J'avais fait.
Pas si mal vous... d'allers-retours, hein.
Ah ça c'est un autre problème. Ouais. J'ai été licencié 3 fois, je suis revenu 3 fois, ce qui prouve quand même une belle fidélité.
Très très belle performance. Licencié en histoire, un passage au tripostal, puis dans l'imprimerie et hop, dans le journalisme, ce sera Paris Presse, puis envoyé spécial en Algérie pour le quotidien Le Monde. L'Algérie, c'est ce qui va, d'une certaine manière, fonder la vocation de journaliste, Jean-François ?
Non, mais c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est incontestable. Parce que même avant d'être journaliste, je suis de la génération qui a été beaucoup façonnée par l'Algérie. C'est tout à fait d'ailleurs par hasard, c'est que j'étais dans un journal qui était Algérie française, et j'étais favorable à une négociation en Algérie. J'étais tout jeune et je m'en cachais pas parce que c'était Paris Presse, un journal très libre. Mmh. Et quand il a fallu qu'ils prennent le tournant de Gaulle, enfin Algérie algérienne, ils ont dit merde, faut changer les gens qui couvrent cette actualité. Et ils sont dirigés vers moi, ils sont retournés vers moi, ils disent écoutez, jeune homme, vous avez dit que vous étiez plutôt pour la négociation pour la paix d'Algérie, c'est l'occasion, mais j'étais tout jeune, hein. Vous allez prendre la relève des vieux, là, et vous y allez. Et à ce moment-là, il y avait un type qui hurlait comme un fou, parce qu'il était, faut bien le dire, assez d'extrême droite et très Algérie française, et qui disait c'est une honte et tout. Alors on lui dit, vous vous occupez plus de politique. Alors, il était jeune, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais comme, alors beaucoup sont partis. Hein. Mmh. Et on lui a dit, écoutez, on va créer une rubrique gastronomique pour que vous vous occupiez plus de politique. Alors tu dis, comment une rubrique gastronomique?
Ouais, c'est la cuisine politique.
C'est un déshonneur, comment moi, logique. Un politique et tout. Mmh. Et en vérité, il s'appelait Christian Gau. Il a formé, et grâce à ça, il a fait le fameux Gomillot, et ça, il est devenu milliardaire, sinon milliardaire. Il a eu du pot. Hein.
Et on va le retrouver sur l'antenne d'Europe 1 d'ailleurs quelques
années
plus tard.
Et après, il va revenir sur Europe 1.
Alors, j'ai eu envie, je vais te tutoyer parce que ça m'embarrasse de te voyer. J'ai eu envie de te faire écouter un reportage retrouvé dans les archives d'Europe 1. On est en 61, année charnière. Un certain Maurice Siegel arrive à la direction d'Europe numéro 1. Marie Bénard est acquittée. Les Français se prononcent pour l'autodétermination en Algérie. Le général de Gaulle échappe à un attentat de l'OS. Le mur de Berlin est en construction. Gagarine est le premier homme dans l'espace. Des généraux français tentent et ratent un putsch à Alger. Et des Algériens manifestent à Paris à l'initiative du FLN. La répression est terrible. Des cadavres sont repêchés dans la Seine. Plus de 10 000 personnes arrêtées. Certaines seront reconduites chez elles. Le reportage du journaliste d'Europe numéro 1 à l'aéroport d'Orly.
À 17h très précise, dans un coin reculé de l'aérodrome d'Orly, deux quarts de police ont amené les musulmans qui ce soir sont rapatriés vers leur douar d'origine. Tous sont mal rasés, un petit peu sales. Aucun d'entre eux n'a de bagages. Certains ont sur la tête des pansements. Reste des manifestations de ces jours derniers. Est-ce que c'est une punition pour vous de retourner en Algérie ?
Non, monsieur. Pas du tout. C'est pas une punition. Au contraire, on est vraiment heureux de partir. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas si sur lequel pied danser. On n'arrive pas à dormir les nuits entières. Tout le temps des perquisitions, de ceci, de cela. Même en travaillant, même en faisant n'importe quoi.
Vous travaillez, vous ?
Je travaille également. Oui, monsieur. Je travaille, j'ai deux enfants en France avec une Française et il est encore enceinte d'un troisième.
J'ai été arrêté à 8 heures.
Depuis combien de temps avez-vous été arrêté ?
Il y a trois jours, depuis mardi.
J'ai sorti à chez moi, à la boulangerie, quand je vais prendre le pain dans la boulangerie à 7h30.
Il n'y a même pas
10 mètres. Où est-ce que j'y habite, moi
de... Est-ce que c'est une punition pour vous de retourner dans votre douar?
Non, ce n'est pas une punition.
On est satisfait de partir dans notre pays parce qu'il y a 7 ans, il faut avoir un passeport pour partir. Maintenant, on part librement, on ne paye même pas le voyage.
Même le voyage est gratuit, alors
nous avons laissé nos bagages ou bien tout ici.
Et les deux heures. Et
nous avons abandonné notre travail aussi.
Surtout quand moi, j'ai laissé mon fils tout seul. Alors, il m'oblige de partir. Et puis je travaille tout le temps depuis que je suis en France. Je suis en France depuis 1947, jamais arrêté aucun jour de travail. Et je travaille tout le temps et maintenant il m'oblige de partir, je laisse mon gosse tout seul. Qui c'est qui va lui donner à manger ?
Moi j'ai laissé mes cinq gosses tout seul et puis je travaille toujours. Je suis arrêté sans prix de l'aval. Je suis arrêté en descendant de l'autobus. Depuis notre travail, j'ai été arrêté pour ça.
Bacha Amar, Bedad Ahmed.
Les musulmans répondent à l'appel de leur nom, puis se présentent devant deux CRS qui fouillent au pied de la passerelle. Les musulmans qui quittent ce soir la France sont au nombre de 74. Dans l'avion, ils seront accompagnés, gardés par 15 CRS.
Ah, les Français d'origine algérienne reconduits dans leur douar, comme dit le journaliste d'Europe numéro 1. Vos souvenirs de cette période, Jean-François ?
C'est-à-dire que, vous voyez ça, on critique beaucoup les médias. Je suis le premier d'ailleurs à faire une critique souvent de pouvoir médiatique, etc. Mais il faut pas oublier que par certains aspects, il y a quand même une amélioration et un progrès formidable. Et ça, c'est un bon exemple. J'étais à Paris Presse. J'ai couvert la fameuse, ce qu'on appelle la ratonnade, c'est-à-dire cette manifestation d'Algériens réprimée par la police d'une façon très violente. Et après, on a appris qu'il y a eu même des morts. Alors, combien, on ne sait pas.
Oui, repêchés
entre
dans la
60
Seine,
et 400, on ne sait pas. Oui. Certains repêchés dans la Seine et d'autres pendus aux arbres. J'étais à Paris Presse. J'ai couvert la manifestation. J'ai témoigné des brutalités. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des morts, mais j'avais vu des brutalités terribles, et en particulier au Vélodrome d'hiver, j'avais vu dans quel état on les avait parqués là, ce qui rappelait un mauvais souvenir. Ce n'était pas les mêmes Veldives, mais quand même. Et je n'ai pas pu faire l'article. On ne m'a pas permis de faire l'article, alors que j'étais l'envoyé spécial de ce journal. Bon, c'est le ministère de l'Intérieur qui a dicté l'article. Vous imaginez aujourd'hui ça ? Vous imaginez un journal où il y a une manifestation, ce qui se passe mal, et c'est le ministère de l'Intérieur qui dicte le reportage ? C'est inconcevable. Eh bien, à l'époque, c'était possible. Dans les journées qu'on suivit, j'avais un ami qui était photographe, qui s'appelait Eli Kagan, qui est mort aujourd'hui, et qui nous a apporté des photos de cadavres retrouvés dans la Seine et pendus aux arbres. Donc, on l'avait. On avait les informations. On n'en a passé aucune. C'est pour ça que je tiens à dire qu'il y a quand même eu, au-delà des critiques, des grands progrès dans la liberté de la presse.
Alors je disais qu'en 61, il y a eu un attentat de l'OS raté contre le général de Gaulle, qui n'était pas l'attentat du Petit Clamart, c'était l'attentat du Pont de Seine. Il y a eu l'attentat du Petit Clamart, et là tu me disais, Jean-François, en écoutant
là,
le
son, c'est une expérience
un souvenir
totalement inouïe pour moi. J'étais alors tout jeune journaliste, pour le coup.
C'est en 62, hein,
Petit 62, Clamart, j'ai dû commencer à être journaliste en 60, mais j'étais encore jeune journaliste, et j'étais à Paris Presse. À Paris Presse, c'était des journaux, à l'époque, qui avaient une édition, plusieurs éditions. Donc, si vous voulez, chacun son tour, on arrivait un peu plus tard le matin, mais on faisait les éditions, c'est-à-dire en fonction de l'actualité, on repiquait, comme on dit, ouais, un peu, hein, et on faisait une deuxième, une troisième édition. Très bien. Et arrive les dépêches, ça fait tac, 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 ça veut dire un flash. Je me précipite, il y a un flash, c'était donc, je faisais la permanence, et il y a marqué « Urgent, Chine Nouvelle va faire un communiqué très important ». Alors, je me retourne vers la rédaction, je me dis, alors là, on a un communiqué de Chine Nouvelle. Dans mon esprit, c'était la rupture entre la Chine et l'Union Soviétique, ouais, c'était pas rien. C'est formidable, pour l'édition, on va pouvoir faire un gros titre, etc. Faut attendre, très bien. On attend, puis arrive le moment où on doit absolument sortir le journal, boucler, et rien. Et tac, 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 flash, Chine Nouvelle va annoncer, non. Je dis, attendez, on a attendu un peu, on peut encore attendre. Dit, oui, mais attendez, le prix, quand même, vous imaginez. Oh non, non, il faut attendre, etc. Bon, on attend. Ding, 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 Chine Nouvelle, etc. Je dis, mais attendez, on a attendu tellement longtemps, ça serait trop bête, etc. Vous imaginez pas les yeux qui me fusillaient. Ils étaient en train d'imaginer les millions qu'on avait perdus à attendre, etc. Terrible. Et je sais plus où me mettre, ils me regardaient. En plus, finalement, ils s'en foutaient de Chine Nouvelle et de la rupture. Et tout à coup, ding, 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 attentat contre De Gaulle, le Petit Clamart. Édition spéciale. Record battu des ventes de Paris Presse.
Et là, on t'a remercié, non, j'imagine.
Là, tout à coup, ouais, j'étais le héros.
Alors, je reviens à Algérie parce que c'est à travers cette période de guerre, la guerre d'Algérie, que tu vas découvrir l'Express et l'un de ses fondateurs. On l'appelle à l'époque JJSS. Il sera l'un des invités du tout jeune club de la presse créé en 76. Mais nous sommes bien évidemment quelques mois plus tard.
Jean-Jacques Servan-Schreiber, bonsoir. Vous êtes donc le second invité de l'année pour le Club de la presse d'Europe 1 après François Mitterrand. À la veille de l'importante conférence de presse de clarification politique du président de la République, vous apparaissez comme l'un des principaux lieutenants de Valéry Giscard d'Estaing, comme l'un des ténors du giscardisme face au RPR et à Jacques Chirac. Votre réélection à la présidence du Conseil régional de Lorraine face à Pierre Messmer et bien sûr la situation économique, autant de sujets que nous souhaitons évoquer avec vous. Pour vous interroger ce soir au Club de la presse, Roger Bouzinac, Denis Matin, Pierre Charpie de la Lettre de la Nation, Noël Copin de La Croix, Alain Duhamel d'Europe 1, Roland Faure de l'Aurore, Jean d'Ormesson du Figaro, Pierre Saint-Drichin de France Soir, Philippe Tesson du Quotidien de Paris, Guy Thomas de l'Expansion et d'Antenne 2, Pierre Viançon-Ponté du Monde. Pierre Viançon-Ponté.
Au Parlement, souvent, vous agissez en journaliste. À l'Express, vous écrivez comme un homme politique, comme un député. À Nancy, vous dirigez un peu tout comme un patron. Est-ce que vous voulez être un homme politique qui recherche le pouvoir, ce qui est légitime? Un chef d'entreprise qui poursuit la fortune, un éditorialiste qui exerce une influence, enfin, en d'autres termes, qu'est-ce qui fait courir JJSS?
Alors, je réponds à votre question, qu'est-ce qui me fait courir? C'est l'intérêt passionné que j'ai, sous toutes les formes que vous avez évoquées, pour le sort de ma génération au poste de responsabilité, et en fonction de l'avenir de nos enfants. Nous avons tous ici des enfants, nous savons que leur destin est très incertain, l'univers n'a jamais été aussi imprévisible, en bouleversement. Comment sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, encore moins dans 15 ans pouvons-nous le prévoir ou l'affirmer? Par conséquent, il est important pour des hommes de notre âge d'avoir des responsabilités, de les exercer avec une certaine vision de ce qu'on souhaite être l'avenir.
Il nous a quittés début novembre. Il était un grand patron de presse, un visionnaire, un ingénieur égaré dans la presse. C'est quoi ton avis sur cet homme que tu as beaucoup connu, Jean-François?
Ah, c'est un personnage tout à fait contradictoire. Le seul fait qu'en effet, il se présente comme député à Nancy et qu'il est élu triomphalement, et qu'il représente une espèce de courant moderniste, de réforme, crée une espérance chez les jeunes, en particulier les jeunes cadres, extraordinaire. Et qu'au lieu, comment dirais-je, d'asseoir sur cette victoire une vraie carrière politique, tout à coup il décide de se présenter ailleurs. Alors qu'il est déjà député de Lorraine, de se présenter à Bordeaux contre Chaban-Delmas. C'est-à-dire qu'il y a un côté suicidaire. À la fois il construit un triomphe et il démolit lui-même son triomphe. Et tout ce qu'il a fait, c'est comme ça. Il construit un journal, il démolit son journal. Il construit un triomphe, il démolit son triomphe. Il devient ministre. Quelques mois après, il se démolit en tant que ministre, etc. Toute la dynamique Servan-Schreiber, c'est ça.
Mais à l'époque, on sent que c'est aussi l'homme du défi mondial, l'homme qui va découvrir l'empire de la puce électronique... du côté des États-Unis.
Oui, d'abord il avait déjà écrit le défi américain qui avait été un succès absolument fou. Il avait bien vu que au-delà de la puissance militaire, l'Amérique c'est aussi une puissance technologique, une puissance intellectuelle même. Donc ça il avait très bien vu. Il a très bien vu la révolution informatique, ce qu'il ne voyait pas. Moi j'ai eu par exemple un problème avec lui, y compris avec Europe. Figurez-vous que j'avais une discussion avec lui, on disait mais vous avez raison sur l'information, sur la révolution informatique. Mais comme toute révolution technologique, ce n'est pas une révolution en soi, c'est une révolution qu'on peut mettre au service de n'importe quoi. Ça peut être au service de plus de démocratie, de plus de libéralisme, mais imaginez Hitler utilisant la révolution technologique ou des staliniens utilisant la révolution technologique. Regardez, dans les pays communistes, le plus totalitaire, c'est celui qui utilise le mieux la révolution technologique, c'est l'Allemagne de l'Est. J'essayais de lui expliquer que c'est pas neutre, si vous voulez, que ça dépend au service de quoi c'est mis. Résultat, quand je suis devenu éditorialiste à Europe numéro 1, il a été invité. Il paraît que vous avez engagé Jean-François Kahn comme éditorialiste. Alors on lui... Il dit oui. Il dit, méfiez-vous, c'est un fou. Il admire l'Allemagne de l'Est.
On se retrouve dans quelques instants avec Jean-François Kahn. Une pause de publicité et puis on se retrouve pour évoquer l'Express et ensuite l'arrivée de Jean-François Kahn précisément à Europe numéro 1.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour de Jean-François Kahn. On parlait de l'Express à l'instant, Jean-François. L'Express, c'est le journal où tu vas notamment faire l'événement en janvier 66. La couverture de l'hebdomadaire représente un homme, Mehdi Ben Barka, qu'on réécoute, interrogé par Europe numéro 1, 11 ans plus tôt, au moment du retour au Maroc du roi Mohamed V, le père du futur Hassan II.
Monsieur Ben Barka, une situation politique maintenant est créée, se pose depuis le retour de Sa Majesté Si Mohamed Ben Youssef. Quelle est votre position maintenant?
Oui, certainement. Après la phase où nous n'avons cessé de réclamer la reconnaissance du principe de notre indépendance, nous entrons dans la deuxième phase de notre mouvement, qui est celle de la réalisation de cette indépendance. Cette réalisation doit s'opérer sur deux plans. D'une part, sur un plan de négociation entre la France et le Maroc pour donner un sens au mot interdépendance, qui est d'ailleurs assez vague. Et ensuite, sur le deuxième plan, qui est celui de la gestion. Demain, il y aura un gouvernement marocain qui devra opérer des réformes de structure. Il lui appartiendra de savoir sur quel programme il doit agir. C'est pour cela que notre parti aura à préciser ces points lors d'une consultation nationale qu'il prépare.
D'accord, vous préparez un congrès, je crois, maintenant.
On peut appeler cela
le premier, sans doute, puisque...
On peut appeler cela un congrès, mais peut-être que ce sera d'abord une consultation nationale et que le congrès pose d'autres problèmes qui seront résolus par la suite.
Il y a aussi
n'oubliez
question,
pas oui. Que notre parti vient de sortir de la clandestinité. Pour organiser un congrès comme il se doit, il doit le préparer longuement.
Bon, vous êtes en tout cas très joyeux, tous, et optimistes quant à l'avenir, maintenant.
Presque.
Merci beaucoup, M. Ben Barka.
L'opposant marocain Mehdi Ben Barka qui sera enlevé à Saint-Germain-des-Prés fin 65. La suite, Jean-François, c'est un témoin, un certain Georges Figon, qui vous la raconte à Jacques de Rogy et à toi. Et c'est ce témoignage qui fait la une de l'Express en janvier 66, c'est ça?
D'abord, je constate que les interviews à l'époque, c'était un peu académique.
C'est un peu formel, c'est vrai.
Et je vais vous dire pourquoi. J'étais correspondant du Monde. J'étais pendant un an et demi correspondant du Monde en Algérie. J'étais en Algérie. Et dans mes fonctions, il y avait, non seulement je devais couvrir le début de l'indépendance algérienne, mais à l'époque, à Alger, il y avait tout ce qu'on appelait les mouvements de libération nationaux de tous les pays africains, etc. Et celui qui coordonnait ça, c'était Ben Barka, qui était exilé, parce qu'il était retourné en exil dans l'opposition. Il était exilé en Algérie. Et il s'occupait de cela. Et un jour, sur ma demande, il organise un déjeuner. Un déjeuner où il y avait le représentant du mouvement national du Mozambique, de l'Angola, de la Guinée-Bissau, il y avait un Espagnol, il y avait un Portugais, il y avait un Camerounais, tous des leaders assez connus, si vous voulez, de l'opposition des mouvements nationaux. Or, dans les mois qui ont suivi, tous les partisans de ce déjeuner ont été assassinés. Tous ou été exécutés, ou pendus, tous, ça fait une drôle d'impression. Et quand je reviens ensuite à Paris, et que je suis à l'Express, quand je vois la dépêche, quand il sort la dépêche AFP, Ben Barka enlevé, j'ai eu cette réaction, c'était le seul vivant. Tous ils sont morts, et c'est le seul vivant. Et ça m'a marqué. Et à ce moment-là, je me souviens, il y avait Michel Cotta qui l'avait connu, de Rogier qui l'avait connu, et on s'est fait comme on a un devoir de dire, c'est pas possible, il faut qu'on sache ce qui lui est arrivé. Vous voyez ? Et à ce moment-là...
Le retrouvez, c'était bon.
Alors, figurez-vous qu'il y a... Ça, c'est une autre... Un jour, je reçois un coup de... On enquête, je vais au Maroc, on remonte des pistes. De Rogier connaissait des gens qui avaient travaillé dans les barbouzes anti-OS, qui étaient liés à ça, bref, tout ça. Mais un jour, on reçoit un coup de téléphone d'une actrice qui s'appelle Marie Laforêt, que vous connaissez, qui avait de très beaux yeux.
Oui, chanteuse aussi, d'ailleurs.
Voilà. Et Marie Laforêt me demande d'aller chez elle, de la voir, parce qu'elle avait un compagnon, et que ce compagnon avait des révélations à faire. Et en effet, le compagnon de Marie Laforêt était un ancien ami de Ben Barka, qui avait vraiment des informations à faire, à savoir qu'un ami à lui, qui avait mal tourné, qui était devenu un gangster, mais qui était un ami d'école, avait plus ou moins sous son contrôle un dénommé Figon, qui prétendait tout savoir et avait assisté à l'enlèvement et à la mort de Ben Barka.
Quand on lit le papier, je veux dire, tellement de détails, je veux dire, c'est difficilement imaginable.
Alors Figon, donc je vous passe les mais Figon, donc je le rencontre et il raconte en gros ce qu'il a vu et comment Oufkir est venu et comment Dlimi est venu, comment ils l'ont enfermé dans une cave, qu'ils l'ont attaché à une chaudière, qu'il l'a asticoté avec un poignard, voilà. Et donc on a sorti cette
révélation. C'est un scoop, c'est un vrai scoop.
Et c'était un scoop, mais beaucoup de gens n'ont pas voulu le croire. Mais le récit aujourd'hui est généralement conforté, quoi. C'est en gros ce qui s'est passé.
Même simplement, si on n'a jamais retrouvé le corps.
Alors simplement, ce n'est pas ce qu'on a fait du corps.
Tu arrives à Europe numéro 1 en 70. Par quel heureux hasard, pour y faire quoi ?
Alors, je crois qu'il y avait eu... Je crois qu'à la suite des événements de 68 et des crises que ça avait provoqué un peu partout, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis d'Europe numéro 1. Et donc, ils recrutaient un certain nombre de gens. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des interventions de politique étrangère dans le journal, et donc ils m'ont demandé de venir. Voilà, et comme ça a marché, ils m'ont demandé rapidement de faire un éditorial tous les jours.
Alors l'un de tes premiers éditos sur Europe 1, c'est le monsieur que nous allons entendre qui en est l'inspirateur, c'est pas un des moindres. Avril 70, Jean-Paul Sartre accepte la direction du journal La Cause du Peuple pour faire survivre l'esprit de 68.
Jean-Paul Sartre, est-ce que le fait de devenir directeur de La Cause du Peuple, ça n'est pas un défi que la gauche prolétarienne et vous-même vous lancez au gouvernement? Est-ce que cela ne veut pas dire « on va voir si vous osez m'arrêter » ?
Ce n'est pas un défi, parce qu'un défi est quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. Si le gouvernement veut me déférer à la justice, c'est son affaire. Il s'agit pour moi de toute autre chose. Il s'agit de protéger un statut politique pour les jeunes révolutionnaires de mai, les seuls qui aient gardé l'esprit révolutionnaire de mai, non pas seulement d'ailleurs la gauche prolétarienne, mais aussi bien d'autres groupements qu'on appelle groupuscules, etc., de manière qu'on ne traite pas en bandits de droit commun des gens qui poursuivent l'agitation du mois de mai. Il s'agit donc de montrer que moi qui ne suis certes pas un jeune, ni un homme qui se soit battu aux barricades, et qu'on ne peut certes pas traiter d'assassin, je prends la direction de ce journal pour indiquer qu'il s'agit d'un journal révolutionnaire, en effet, mais non pas d'un journal d'irresponsables lançant des appels au meurtre.
Vous avez déclaré que votre décision n'impliquait pas que vous vous écartiez des positions que vous avez prises dans les temps modernes ou ailleurs. Est-ce que cela veut dire que tout en assumant la responsabilité de ce qui se dira dans La Cause du Peuple, vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux?
C'est exactement cela que ça veut dire. J'assume les articles qui, comme ceux qui ont été incriminés, parlent de la violence populaire, montrent la nécessité d'une violence révolutionnaire. Pour cela, je suis entièrement responsable. Les autres peuvent toucher des points, sur lesquels je ne suis pas d'accord avec, politiquement avec la gauche prolétarienne. Ils le savent fort bien et je le sais aussi. Je vous en cite un par exemple, nous n'avons pas la même position politique en ce qui concerne le problème Israël et le monde arabe. Ce point de vue donc veut dire que si ils font des articles sur Israël ou sur les Palestiniens, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils diront. Mais l'ayant dit, ça ne me gêne aucunement, ni eux.
Jean-Paul Sartre sur Europe numéro 1, tu te souviens de l'angle de ton édito? Non, c'est pas toi, mais toi tu vas faire ton premier édito, tu te souviens de l'angle?
Non.
Non, c'était les provocateurs.
Les provocateurs, cela existe et l'histoire leur doit, si j'ose dire, beaucoup. Il est incontestable que la police, c'est son métier, cherche à infiltrer dans les organisations extrémistes des hommes à elle, soit pour se renseigner, soit même pour faire faire à certains révolutionnaires de droite ou de gauche ce qu'elle souhaite qu'ils fassent. Seulement, nous savons aussi que les communistes ont une certaine tendance à avoir, comme on dit, des flics partout. À partir de cette logique redoutable et dangereuse qui consiste à confondre ce qu'ils appellent la complicité objective avec la complicité réelle, ils ont déjà affirmé que Cohn-Bendit, en mai 1968, était un agent du pouvoir, ce qui est naturellement absurde. En définitive, il faut bien admettre que les ultra-gauchistes n'ont pas besoin des efforts de M. Marcellin pour se livrer d'eux-mêmes à toutes sortes de provocations qui souvent gênent plus encore l'opposition de gauche que la majorité. C'est finalement un des leaders de cette gauche prolétarienne que Jean-Paul Sartre couvre de son prestige, M. Alain Guesmard, qui nous donne une définition fort complète de la provocation. Dans un livre qui s'appelle « Vers la guerre civile », il écrit « L'action exemplaire, c'est-à-dire la provocation, accélère l'identification de l'ennemi avec les forces de répression. Dans cette perspective, le succès gaulliste, je cite toujours, le succès gaulliste aux élections de juin 68 et le rassemblement qu'elles ont permis sous la bannière de la Croix de Lorraine reste un acquis du mouvement de mai. » Et il ajoute cette analyse qui prête à réfléchir. Dans les sociétés primitives, quand un élément de la tribu transgresse un interdit, il est soit mis à mort, soit élu comme sorcier. L'acte de transgression est le dévoilement du désir. Le problème est donc posé, comment articuler l'ordre du fantasme sur celui de la stratégie? Eh bien, c'est peut-être cette définition néo-freudienne de la provocation qui a séduit le philosophe Jean-Paul Sartre. Reste à savoir si on joue avec ces choses-là. Si la société française est une société primitive qui a besoin d'apprentis sorciers.
Se réécouter pour un éditorialiste, c'est forcément une épreuve ou pas?
C'est-à-dire
forcément.
C'est la première fois que je me réécoute depuis...
C'est le secret de cette émission.
Depuis 30 ans, alors vraiment, je ne me souviens même pas...
C'est ton premier édito, Jean-François, sur Europe 1.
Je ne me souviens même pas avoir fait un éditorial là-dessus. D'abord, ce qui me frappe, c'est à quel point Jean-Paul Sartre a une voix désagréable. Non mais faut, c'est vrai, le type, t'es peut-être un très grand philosophe, mais
il écrivait très bien, et voilà. Il parlait moins bien, c'est ça?
Oui. Non, mais il a une voix extrêmement désagréable, très vieillotte, etc. Et c'est drôle quand vous pensez que parmi les leaders de la cause du peuple, dont il est question d'ultra-gauchistes, il y avait quand même André Glucksmann.
Ouais.
Vu les positions actuelles d'André Glucksmann ou de Rollin ou de beaucoup d'autres.
D'où ma question, est-ce que se réécouter pour un éditorialiste, c'est forcément
non, difficile. Là, en l'occurrence, vous savez, je suis sûr que vous pourriez me faire écouter des choses où je rougirais et je dirais, mais comment j'ai pu dire de telles bêtises? Je dois dire que je dirais la même chose mot pour mot. Là, en l'occurrence, je pense exactement la même chose aujourd'hui.
Mais c'est parce que t'es un provocateur.
Peut-être.
Marc Tronceau.
Des enfants d'Europe 1 réunis autour de Jean-François Kahn aujourd'hui. On parlait de ton activité d'éditorialiste. Tu vas en faire beaucoup des éditos sur Europe 1. Tu ne seras pas le seul sur cette antenne.
L'info là où on l'attend sur Europe 1.
Jacques Julliard du Nouvel Observateur.
Bonjour à tous. Quelque chose ne va pas dans la politique française, décidément. Quand on l'interroge sur ce point, François Mitterrand fait remarquer avec raison que la politique française a toujours été en crise et que c'est presque chez elle un état normal. Ce n'est pas parce qu'on a jusqu'ici évité les chutes en marchant qu'il ne faut pas regarder où l'on met les pieds.
L'éditorial de Serge Lille, Libération.
Bonjour. Bonjour. Le CIP est en train de vivre ses derniers instants, il va être trappé d'un moment à l'autre. Aussi, suspend ton vol. Le gouvernement avait besoin d'un sérieux coup de jeune après avoir pris un très très sérieux coup de vie.
8h22 sur Europe 1.
Jean-François Revel.
La faillite de ce complot, si mal exécuté,
n'a nullement rétabli le crédit de Gorbatchev et a au contraire achevé de ruiner le peu d'autorité qui lui restait. Il semble donc que la fermeté des Occidentaux à Londres, via le putsch raté, elle est débloquée.
Vous écoutez Europe 1, il est 7h25.
Polémique donc sur la révision de la loi Fallou commentée ce matin par Alain Duhamel. Bonjour Alain.
Bonjour. Dès qu'on parle de laïcité, c'est finalement un des tabous politiques français, à la fois les plus traditionnels mais aussi les plus profonds qui sont mis en cause. Ça arrange le gouvernement parce que brusquement au moment où il voulait donner un signal politique fort à ceux de sa base qui pouvaient être le cas échéant un peu intrigués, ennuyés, hérissés par le GATT, et ben brusquement c'est un de leurs symboles qu'on met en avant dans le bon sens, et puis que la gauche se remobilise sur le champ, en bon ordre, par gros bataillons comme elle adore.
8h-5, la chronique de Jean Boissonnat du magazine L'Expansion.
Bonjour Jean.
Bonjour. Il y a des modes. Depuis quelque temps, tout le monde dit volontiers que la croissance est finie et qu'à supposer qu'elle revienne, elle ne créerait plus assez d'emplois pour résorber le chômage. Lui aussi, il bat ses records, 12% de la main-d'œuvre en France.
Pour l'éditorial de Claude Imbert, du Point.
On dirait que tout, sous la grosse loupe médiatique, nourrit le pessimisme et l'esprit de défaite. Dans ce sentiment chagrin d'état de siège que tant de Français remâchent, on voit lever des barrières et ponts-levis pour défendre notre culture, comme si la culture n'était qu'un produit matériel hérité. La culture ne vit que de conquêtes et elle ne meurt que de faiblesses.
8h22, sur Europe 1.
C'est l'éditorial de Catherine Ney.
Une profession vacille, agonise peut-être sous nos yeux, trucidée par Édouard Balladur. Et pourtant, 10 ans durant, elle eut pignon et pognon sur rue et fut un réservoir d'emplois productif. Ça, c'est une autre histoire. Laquelle ? Celle de conseiller en communication politique. Mais oui, de toutes les matières, c'est la ouate qu'il préfère, le Premier ministre. Et il y veille, pas de quoi.
L'éditorial de Catherine Ney sur Europe 1, le jeudi. Les éditorialistes sur Europe 1, Dieu sait s'il y en a eu.
Oui, mais moi, quand j'étais, c'était d'abord bien avant. Ouais. Hein, j'y étais pendant 6-7 ans, c'est bien avant. Et j'étais le seul.
Il vaut mieux.
Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, ça donnait un statut incroyable. Fallait voir ce que ça représentait. Il y avait simplement après moi quelqu'un qui s'appelait Marcel Ulrich, je crois est mort maintenant, qui était une sorte d'un romancier, qui faisait une sorte de chronique un peu de société. Avant moi, il y avait eu Atchouler.
Georges Atchouler.
Et puis quelqu'un, je me souviens plus, un grand Claude Thérien, je crois.
Claude Thérien, oui. Bon.
Et j'avais remplacé Claude Thérien. C'est-à-dire quand Claude Thérien est mort, il y a eu un an et demi.
Quasiment un deuil national.
Voilà, deuil national. Et j'ai remplacé à 8h Claude Thérien. Donc si vous voulez, quand vous dites je suis un enfant d'Europe 1, il est évident que pour un journaliste qui était encore un jeune journaliste, même si j'avais été à l'Express, au Monde, etc., tout à coup être propulsé l'éditorialiste, le seul éditorialiste chaque matin d'Europe numéro 1, c'était un statut incroyable.
Mais c'était la pensée unique, ça. Soutus.
Peut-être. Et donc, vraiment, c'était une expérience, en effet, très très forte.
Bon, alors, tu vas faire le journal de 8 heures, c'est pas mal non plus à l'époque, avec un certain nombre d'autres personnes. Et il paraît que c'est un des responsables de cette édition, Robert Marcelin, qui me l'a raconté, que tu avais pris l'habitude de passer un morceau de musique classique à la fin du journal.
C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant.
Je vois que c'est vrai.
Mais on dit tout. On dit tout sur cette antenne.
Évidemment.
Franchement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été viré 3 fois d'Europe numéro 1, mais il faut reconnaître que j'ai une liberté incroyable, de tout le temps d'ailleurs. Et pendant ces 7 ans, j'ai été éditorialiste, mais j'ai une liberté, c'était il y a Jean Gorini, etc. Mais inouï, j'ai pu dire, à l'époque, fallait voir que ce que je disais, aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même, on peut dire des choses, hein. Mais à l'époque, faut aller voir, sous Pompidou, etc., je crois que je disais des choses qu'on n'entendait sur aucune radio. Bon. Et j'avais une liberté totale, on ne faisait aucune réflexion. Très bien. Bon, et à un moment, il y a eu une crise, dans la maison, ça arrive. Ouais. Et j'en ai profité, je faisais déjà un journal, je commentais les infos, et ensuite je faisais un éditorial. Et j'en ai profité pour dire, mais je voudrais choisir la musique qui suit mon édito. Ah, d'accord, etc. Et naturellement, j'ai choisi de la musique qui ne correspondait pas totalement à la tonalité des musiques
c'était
qu'on écoutait.
C'était pour apaiser les feux de l'actualité.
Il y avait un peu de musique classique, du Mozart, ou des chansons, des bon. Alors là, ça provoquait un charivari que vous n'imaginez pas. Et là, j'ai été censuré très rapidement.
C'est-à-dire qu'on m'a dit,
non, on ne peut pas faire entendre du Mozart le matin sur cette station. C'est-à-dire que je pouvais tout dire en politique, tout dire dans tous les domaines, mais passer du Mozart, ça, c'était considéré comme insupportable.
Alors, ce goût pour la musique, il va t'amener à produire et à présenter sur Europe 1 un certain nombre d'émissions. Qui ont laissé un souvenir impérissable, notamment un réalisateur de l'époque, Jean-Marie Pantalacci. Il se trouve qu'il est en studio avec nous, Jean-Marie. C'était des émissions qui étaient
formidables.
Voilà. J'ai eu un grand plaisir à faire ces émissions avec Jean-François, qui m'a surpris là, par sa connaissance de la chanson française. Et ce qui est formidable avec la chanson, c'est que c'est, à mon avis, des déclencheurs de mémoire fantastiques.
Ouais.
Quand on entend un tube, on se souvient tous de l'endroit où on l'a écouté, ouais, avec qui, surtout les slows, bien sûr.
Ouais.
Et Jean-François a balayé comme ça toute l'histoire de la chanson française de façon extraordinaire. J'ai pris un très grand plaisir à faire cette émission.
Mais bon, un peu, on va dire les choses comme on les pense, un peu bordélique comme, comme type.
Alors, on a eu deux périodes. On l'a enregistré. La première année, c'était enregistré, et ouais, la deuxième, on la faisait en direct. Ouais. Et là, ça allait très vite. Et Jean-François, de temps en temps, oubliait une feuille, et moi, il fallait que je rame derrière pour ramener les disques là où ils étaient. C'était assez compliqué.
Alors, un exemple, chantez-nous ça, c'est Jean-François Kahn.
Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi cet air-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, minute papillon. Ça c'est de la musique.
Chantez-nous ça, Jean-François Kahn, bonjour.
Bonjour Véronique. Ça c'est de la musique, il y a une autre version du même thème.
La musique, c'est pour les amoureux. Qu'il écoute à deux. La tactique, c'est d'être dans ses bras. Et la musique continue.
La musique, Patachou.
Et savez-vous de quand elle date, cette chanson? Non, au fond, il n'y a aucune raison que vous le sachiez. Hein,
vous avez raison.
Non, elle date de 58. 58, eh bien, ça sera le thème de cette émission. 58, c'est la naissance de la Ve République. C'est l'arrivée, le retour du général de Gaulle au pouvoir. C'est le putsch d'Alger. Eh bien, tous ces événements, on va les évoquer à travers, là aussi, leur environnement, leur atmosphère musicale. Mais d'abord, des nouvelles de notre grand concours...
Hit parade
de la plus belle chanson d'amour du répertoire français. Et là arrive Mon Vieux, et c'est intéressant parce que c'est la seule chanson d'amour qui a été, pour l'instant, nominée, comme on dit, la seule chanson d'amour qui n'est pas une chanson classique d'un homme à une femme, d'une femme à un homme, puisque cette belle chanson de Guichard, c'est une chanson d'amour à son père.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été.
Alors c'est un cas un petit peu unique dans cette émission Les Enfants d'Europe 1. J'ai à la fois l'animateur de l'émission et le réalisateur de l'émission autour de cette table. Y a un truc qui marque, Jean-François, quand on écoute le début de cette émission. Il y a une extraordinaire décontraction chez toi. Extraordinaire. Je veux dire, tu parles de quelque chose qui te plaît et t'en parles comme si on était autour d'un feu de bois.
Oui, mais je les prépare beaucoup. Ben, il peut le, je sais pas, j'ai pas super conscient qu'il y ait cette atmosphère de décontraction. Si oui, c'est un compliment, parce qu'il faut avoir cette atmosphère, mais il faut pas croire que j'arrive les mains dans les poches, et que je prépare tout. Je prépare non seulement les musiques, mais le moment qu'il faut choisir, au moment où il faut chanter, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette musique, etc. Donc je prépare beaucoup. Et c'est peut-être parce que je prépare, et que donc je suis plus sûr de moi, que ça me permet d'être plus décontracté, je crois.
Jean-Marie, tu avais exactement, le tableau de bord de l'émission.
Ah oui, ben on se voyait la veille, tout l'après-midi pour préparer tout ça. C'était très préparé, effectivement. Oui.
Mmh. Il y avait un nombre de morceaux, de documents
considérable. Oui, considérable. Pour la même émission.
Ça durait combien de temps?
Plus je suis le roi du pot-pourri. Hein.
Oui, absolument. Ça,
sur des thèmes, un pot-pourri fait avec 12 chansons différentes. Là,
j'étais. Oui, j'adorais ça.
Ouais, et les mixages, c'est lui qui les faisait.
C'est lui qui les faisait.
Ouais. T'as un fait pour qui, quand on parle de chansons, c'est Piaf, c'est Tino Rossi, c'est Lenny Scudero. C'est-à-dire, moi,
d'une façon
générale... Tu partirais sur une île, tu t'emmènes quoi?
D'une façon générale, une des raisons pour lesquelles, je défends le pluralisme idéologique, le pluralisme de la presse, le pluralisme des idées, c'est que j'applique cela dans tous les domaines. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on peut être enfermé dans une musique. Je ne comprends pas quelqu'un qui, au nom de Mozart, ne peut pas écouter Maurice Chevalier, qui, au nom du jazz, ne peut pas écouter la musique classique, etc., etc. Et donc, j'aime absolument toutes les formes de musique. Je les aime pas au même titre, mais j'aime toutes les formes de musique, depuis la chansonnette, depuis la chanson de qualité, d'ailleurs, j'aime et la chanson et la chanson de la chanson, jusqu'à la grande musique classique.
Jean-Marie, t'as découvert des choses grâce à Jean-François?
Ben, surtout sur la période avant-guerre, que je connaissais un peu comme ça, mais il nous a amené des perles qu'il avait dans sa discothèque personnelle, et là, j'ai découvert des petites perles. Dans la chanson réaliste, tout ça, il y a des trucs assez formidables.
Et c'est vrai que dès qu'il peut y avoir un contexte historique, Jean-François, tu adores. Les chansons de la Libération, par exemple.
François Kahn, les chansons de la Libération.
Et il faut bien admettre que cette période 40-45 va être, j'oserais pas dire faste à Tino Rossi, encore qu'il a pas à se plaindre, encore une fois. Tino Rossi qui aura de sérieux ennuis, lui aussi, en 44, au moment de la Libération. Pourquoi ? D'abord parce que lui, non seulement il chante sur Radio Paris, mais il a l'imprudence de chanter dans des galas, des galas quelquefois politiques, des galas où en première partie il y a des orateurs qui s'expriment et qui tiennent des propos, tenez par exemple de ce genre-là.
Ce n'est pas le prince qui a été battu, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient.
C'était Monsieur Clémenti. Alors, vous voyez, il y avait la première partie politique, puis après, il y avait des chansons, et vous avez, entre autres, Tino Rossi, il y est pour rien. Mais, bon, un peu, naturellement, c'est un peu imprudent. Enfin, tout ça, en effet, lui vaut un certain nombre d'ennuis. Et du coup, d'ailleurs, son genre un peu évolue, et il se met à chanter des chansons sur des airs classiques, par exemple, sur de la musique de Brahms.
Dans le soir qui meurt, mon cœur appelle ton cœur, entends sa voix, sa douce voix.
Voilà, autre émission animée par Jean-François Kahn sur l'antenne d'Europe 1, les chansons de la Libération. J'ai pas tort quand je dis que quand il y a un contexte historique, c'est un truc qui t'excite plutôt, non ?
C'est-à-dire que je suis historien de formation, j'étais professeur d'histoire. Et les documents d'époque, vous savez, imaginez que vous voulez parler du siècle de Louis XIV. Ouais. Pour parler du siècle de Louis XIV, si vous voulez savoir...
On a moins d'enregistrements.
Quelle était la sensibilité du peuple ? Qu'est-ce que pensaient les gens, hein ? les paysans, les artisans ? En fait, vous n'en savez rien, parce que les rapports, par exemple, des gouverneurs, c'est des rapports pour faire plaisir au roi. C'est-à-dire, jamais ils vont prendre le risque de dire le peuple est mécontent ou il a faim. Leur carrière serait foutue. Donc, en vérité, on a très peu de documents qui transmettent réellement une réalité. Et une des rares choses qui donne... la tonalité de l'opinion publique, souvent, c'est les chansons. C'est les chansons dont on ne sait pas quels sont les auteurs. N'empêche qu'on voit dans ces chansons quel est vraiment l'état d'esprit de la population. Et en particulier, il y a des chansons au moment de la mort de Louis XIV qui témoignent d'une haine de la population contre la monarchie à cette époque-là, qui annonce d'une certaine manière la Révolution française, déjà.
D'où tu tiens cette connaissance de la musique ? C'est très jeune ?
Oui, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été passionné. D'abord, je travaille en musique, c'est-à-dire que j'écoute de la musique absolument, bon, surtout de l'opéra d'ailleurs, mais pas que ça, absolument tout le temps. Quand je travaille, j'ai de la musique en fond.
Donc quand il y a un éditorial particulièrement saignant, on a les Valkyries de Wagner
absolument,
derrière.
Absolument, voilà.
Absolument. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-François Kahn.
Marc Tronceau.
Retour dans le studio des Enfants d'Europe 1 avec comme invité aujourd'hui Jean-François Kahn. On parlait à l'instant des chansons, parce que Jean-François Kahn, ça a été effectivement Chantez-nous ça, ça a été les chansons de la Libération. Et comme Nicolas Domenac, journaliste à Marianne, m'a dit que tu étais un formidable cuisinier et un gourmet non moins remarquable, j'ai essayé d'associer les deux. Ça nous donne une recette de cuisine dans la voix de la maîtresse du Petit Conservatoire de la Chanson dans l'émission d'Alexandre Fronty sur Europe 1 dans les années 70.
Je sais très bien faire, si vous aimez ça, le poisson frit froid. Je veux bien qu'on dise du mal de mes chansons, mais pas de ma cuisine. Que ceci soit bien précisé. Il faut d'abord les égoutter, les laisser dans le sel. Ça, je ne sais pas si on le fait toujours. On les laisse 3-4 heures dans un plat salé, après avoir été lavé, avec du gros sel. On met dessus un poids, une autre assiette pour que l'eau s'égoutte. S'égoutte bien, et quand ça a été bien essoré, alors on les essuie, on les met dans la farine, ensuite dans l'œuf, un œuf battu, et puis on les frit. Et pour ne pas que ça soit gras à aucun moment, on a un grand papier marron que l'on pose sur une grille et on met son poisson sur ce papier et on le laisse là au moins 2-3 heures. Et tout le gras, toute la graisse, toute l'huile est partie. C'est tout à fait sec et c'est délicieux. Alors, si vous voulez, vous y mettez des olives noires. Ça se présente sur une grande feuille de salade, des olives noires, des œufs durs, des tomates, tout ce qui vous tombe sous la main. Vous garnissez, c'est très joli et c'est très bon.
Entre le Petit Conservatoire et la Starac, Jean-François, tu choisis quoi ?
Et vous savez que Mireille était mariée avec qui ? Elle s'est mariée avec qui? Avec un grand intellectuel qui s'appelle Emmanuel Berg.
Ouais.
Et Emmanuel Berg, c'est le créateur de quel journal?
Aucune idée.
Marianne.
J'aurais voulu le faire. Hein. Bon, grand cuisinier, grand gourmet, j'ai pas tort. En toute immodestie.
Grand gourmet, François. Je ne sais pas, je suis gourmet, j'aime beaucoup, j'aime bien manger les bons plats, découvrir des cuisines inventives, etc. Cuisinier, j'aime bien, je cuisine. Maintenant, est-ce que je suis un bon cuisinier? J'en sais rien, mais j'aime bien cuisiner.
Spécialité? Plutôt nouvelle cuisine ou cuisine du terroir?
Le canard laqué à l'orange.
Ah, le canard laqué. Le canard, toujours.
Laqué à l'orange.
C'est les journaux qui poursuivent. L'histoire, c'est ton dada. On ne peut pas juger le présent et imaginer l'avenir si on ne connaît pas le passé. Parmi les grands, tu réserves une place à part à Victor Hugo. Je t'ai fait un petit cadeau. Quand Hugo parlait de l'Europe en 1849, eh bien, Depardieu s'en faisait l'écho quelques années plus tard, en 2005.
Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, eût dit à la Lorraine, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne, un jour viendra où l'on ne dira plus « les Normands ont attaqué les Picards ». Vous aurez bien encore des différends à régler. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez « l'urne du scrutin ». Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune. Vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez l'Europe. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs se fussent écriés « Oh, le songeur, oh le rêve creux !» Que voilà une étrange folie et une absurde chimère. Messieurs, le temps a marché et cette chimère, c'est la réalité. Un jour viendra où la France... Vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne.
Victor Hugo, pourquoi cette passion pour
parce
pour Victor
que
Hugo,
vous,
ou ce respect, les deux
vous, quelque part, vous, c'est ce que vous avez un peu touché tout à l'heure. C'est, à part la musique où il n'y connaissait rien, à part ça, cet homme... qui aime bouffer, qui aime bien boire, qui aime le sexe et qui en abuse d'ailleurs un peu, surtout en vieillissant, qui est un vrai sensuel, qui dessine, qui fait des tableaux, qui invente même un art spécial à l'encre de Chine, qui découvre la photo avant tout le monde, qui est un député, qui est un homme politique, qui est un militant, qui écrit du théâtre, qui écrit des romans, qui écrit des poèmes, c'est ça, cette diversité inouïe, ce monde dans une seule personne, c'est quelque chose qui me fascine totalement.
L'Européen, Jean-François Kahn.
Oui, l'Européen aussi.
Oui.
L'Européen, mais pas que l'Européen. C'est le nombre. Vous savez que Victor Hugo fait le premier intervention pour dénoncer les pogroms antisémites en Russie. Il fait une des premières interventions pour dénoncer le colonialisme lors de l'intervention franco-britannique en Chine. Il est le premier qui dénonce le communisme de Blanqui en des termes où on croit qu'il parle du stalinisme. Il y a tout ça, c'est peu connu chez Victor Hugo, mais il y a une modernité inouïe.
Il faut relire Victor Hugo. Merci Jean-François Kahn d'être passé dans le studio des Enfants d'Europe 1. Merci beaucoup. Même si il y a eu effectivement des allers-retours entre cette maison et vous, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain, comme chaque dimanche, entre 10h et 11h. Et d'ici là, bonne fin de week-end, bonne semaine et surtout, excellente radio.